Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a dans la philosophie occidentale une pensée du changement qui, disons, finit par le considérer sous un angle assez négatif, notamment du point de vue de l'ordre social. Et on pourrait trouver tout un tas de citations chez Platon, chez Aristote, hein, qui nous disent en gros, il faut fixer des lois qui ont une stabilité, hein, qui garantissent un certain ordre social. Et il ne faut surtout pas introduire d'innovation, de changement dans ces lois, car c'est une menace pour l'ordre social. Donc en fait, contrairement à notre vision des choses moderne ou contemporaine, qui a complètement réhabilité le changement et l'innovation, qui en a fait quelque chose de positif, il faut bien avoir à l'esprit que ça n'a pas toujours été comme ça. Au contraire, le changement a été parfois perçu de façon assez négative par les philosophes, en tout cas dans la tradition occidentale. Alors parmi ces philosophes classiques, il y en a certains, hein, comme par exemple toute la période de la philosophie hellénistique, hein, qui envisage, notamment les stoïciens, les épicuriens, le changement, hein, sous l'angle du changement de soi, en fait. Et c'est précisément ça qui donne lieu à ce que ces stoïciens ou épicuriens appellent les exercices, hein, les exercices spirituels, qui ont, en tant que travail sur soi, vocation à produire une transformation de soi. C'est là qu'intervient cette notion d'exercice. Ça veut dire que dans la période postérieure à Platon, Aristote, etc., chez des gens comme Épicure, Zénon ou autres, donc qui représentent les pères fondateurs de la tradition épicurienne ou stoïcienne, hein, changer, ça veut dire changer sa vie, changer de vie, et tout en reconnaissant, hein, qu'il y a effectivement des choses qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. Hein. On ne peut pas changer forcément la nature, mais par contre, on peut se changer soi. Alors évidemment, cette frontière entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer, à l'époque moderne, est peut-être à revoir, hein, puisque précisément, un des problèmes qu'il y a à la transition écologique, me semble-t-il, c'est que dans notre représentation, hein, nous sommes amenés à considérer que nous pouvons désormais changer des choses, hein, par exemple de la nature, comme le climat, dont les philosophes de l'Antiquité pensaient qu'elles appartenaient aux choses qu'on ne change pas, justement. Donc nous pouvons changer ce qui avant était considéré comme ne changeant pas. C'est peut-être ça aussi un des aspects de notre modernité, hein, qui a déplacé le curseur en quelque sorte entre la société humaine et le monde naturel. Alors je voudrais montrer aussi le contraste entre la philosophie antique et la philosophie moderne de ce point de vue-là, hein, qui, elle, reconnaît pleinement, non seulement la nécessité, mais aussi la valeur du changement. Hein, je voudrais citer une phrase extraite d'un ouvrage de Charles Sumner Peirce, qui est fondateur du pragmatisme et de ce grand courant de la philosophie américaine, hein, qui montre justement que ce changement est une nécessité. Et c'est intéressant parce que Peirce, hein, nous fait entrevoir le rôle que peut jouer l'habitude, effectivement, dans ce changement et dans cette difficulté du changement. Je cite Peirce, hein, « Par la force de l'habitude, on reste quelquefois attaché à ses vieilles croyances, après qu'on est en état de voir qu'elles n'ont aucun fondement. » Mais en réfléchissant sur l'état de la question, on triomphera de ses habitudes. On doit laisser à la réflexion tout son effet. Il répugne à certaines gens d'agir ainsi parce qu'ils ont l'idée que les croyances sont choses salutaires, même quand ils ne peuvent s'empêcher de voir qu'elles ne reposent sur rien. Mais supposons un cas analogue à celui de ces personnes, bien que fort différent. Que dirait-elle d'un musulman converti à la religion réformée, donc le protestantisme, qui hésiterait à abandonner ses anciennes idées sur la relation entre les sexes, hein, donc l'égalité homme-femme. Ne dirait-elle pas que cet homme doit examiner les choses à fond, de façon à comprendre clairement sa nouvelle doctrine et à l'embrasser en totalité? Par-dessus tout, il faut considérer qu'il y a quelque chose de plus salutaire que toute croyance particulière, c'est l'intégrité de la croyance, et qu'éviter de scruter les bases d'une croyance par crainte de les trouver vermoulues est immoral tout autant que désavantageux. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez quelqu'un comme Peirce, hein, qui nous dit carrément, en prenant presque le contre-pied de certains philosophes de l'Antiquité, c'est immoral de ne pas changer quand on vous a montré que votre croyance est sans fondement. Hein, c'est carrément une affaire, vous voyez, éthique, hein, cette nécessité de changer quand on montre l'absence de fondement de la croyance. Mais on voit aussi, effectivement ici, le rôle que peut jouer l'habitude comme force de résistance, voyez, au changement, dans la mesure où, d'une certaine manière, il y a un lien chez Peirce entre la pensée et la conduite. Hein, une croyance, c'est quelque chose qui peut s'entendre comme habitude d'action, hein, qui se traduit et s'exprime dans une habitude d'action. Alors si on revient sur le changement humain, on pourra considérer, à la différence par exemple du changement naturel, changement de la chimie de l'atmosphère, par exemple, que c'est un changement qui est causé par l'homme, qui est visé par l'homme, qui affecte l'homme ou qui est propre à l'homme. Et comme je disais tout à l'heure, on peut voir ici que ce qu'il y a de caractéristique de notre époque, certainement, mais qui ne fait que poursuivre en fait le programme de changement qui est celui de la modernité, c'est qu'on a déplacé le curseur au plan du changement humain entre ce qui relève en fait du changement qui est causé par l'homme et ce qui n'en relève pas. D'une certaine manière, si on prend l'exemple du changement climatique, désormais nous changeons le climat. Alors peut-être qu'à une échelle infinitésimale, dans le passé, on l'a un peu fait, mais sans vraiment nous en rendre compte, là nous faisons à une échelle tout à fait globale, désormais. Donc désormais, le climat rentre dans le périmètre du changement humain. Alors, mon deuxième point concerne la notion d'ascèse, que j'examine ici en lien avec celle d'exercice et de sacrifice, puisque c'est un des points que nous examinons aujourd'hui. Alors c'est une notion qui me paraît très intéressante, cette notion d'ascèse, parce que justement l'ascésis en grec c'est l'exercice. Et on suppose aussi que c'est aussi le sacrifice, en ce sens que c'est aussi une façon de vivre une sorte de renoncement à quelque chose. Voilà. Et donc la notion d'ascèse, qui est très ancienne, très classique finalement en philosophie, c'est une notion qui nous permet de faire le lien entre l'exercice et le sacrifice. Alors, si on regarde les définitions actuelles de l'ascèse, c'est une discipline de vie, un ensemble d'exercices physiques et moraux pratiqués en vue d'un perfectionnement spirituel, dans les définitions courantes. L'exercice, quant à lui, c'est une action de s'exercer, une action faite de pratiquer une activité. C'est aussi, dans l'acception très courante, un travail, un devoir donné à un élève en application de ce qui a été appris précédemment dans un cours ou une leçon. C'est une dépense physique, une activité sportive. C'est tout ça l'exercice dans le sens actuel du mot. Et lorsqu'on regarde le sacrifice, maintenant, la définition qui en est donnée de façon courante, en dehors du sens religieux qui est l'offrande à la divinité, c'est un renoncement volontaire à quelque chose. C'est ça que ça veut dire, c'est un renoncement volontaire à quelque chose. Une perte qu'on accepte, une privation, notamment sur le plan financier. Donc c'est intéressant de voir ici que dans la notion sacrifice, il y a cette notion de sacrifice en tant que renoncement volontaire. Ce qui est un point tout à fait important. Alors je voudrais illustrer cette notion d'ascèse par celle d'exercice spirituel chez les stoïciens et chez les épicuriens. Donc les stoïciens notamment, qui ont beaucoup pratiqué cette notion d'ascèse, considèrent en fait que, d'une certaine manière, la philosophie se confond avec l'ascèse en tant qu'exercice. La philosophie, c'est un exercice. Pendant très longtemps, on considère que... Enfin, pendant très longtemps. Peut-être, à notre époque, par une illusion rétrospective, nous considérons qu'il en a toujours été ainsi, que la philosophie est avant tout un système de pensée, une doctrine, etc. En fait, pas du tout. Dans l'Antiquité, c'est un peu la thèse de Pierre Hadot, qui est connu pour avoir beaucoup travaillé sur les exercices spirituels dans l'Antiquité. La philosophie, c'est avant tout une pratique. C'est un art de vivre qui passe par des exercices. Donc c'est une attitude de vie concrète, un style déterminé qui engage toute l'existence. Et du coup, cette philosophie ne se situe pas simplement dans l'ordre de la connaissance, mais aussi dans l'ordre du soi, de l'être, et ce qui peut impliquer que nous sommes dans une visée de perfectionnement spirituel, mais qui peut entraîner une conversion. Voilà. Alors ça, c'est un point qui me paraît important, qu'on peut tirer de cette notion d'ascèse dans la philosophie antique, c'est que la philosophie en tant que recherche ou effort de sagesse implique, à un moment donné, une conversion par un changement d'existence radical. À la limite, on pourrait presque faire le parallèle entre la conversion religieuse, sauf qu'ici on est dans un registre qui est non religieux, en tout cas jusqu'à un certain point. Cette conversion permet de passer d'un état de vie inauthentique, qui est obscurci par l'inconscience, rongé par le souci, à un état de vie authentique, dans lequel l'homme atteint la conscience de soi, la vision exacte du monde, la paix et la liberté intérieure. Donc pour toutes ces écoles philosophiques, aussi bien les stoïciens que les épicuriens, qui sont considérés comme des écoles rivales, alors qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de points qui sont communs, malgré tout, la principale cause de souffrance, de désordre, d'inconscience pour l'homme, ce sont les passions, les désirs désordonnés, les craintes exagérées. Donc la domination du souci empêche de vivre vraiment. La philosophie apparaîtra donc en premier lieu comme une thérapeutique des passions. C'est-à-dire qu'en fait, dans le changement de soi, en profondeur, qui peut impliquer une conversion, hein, qu'entraîne la pratique de l'ascèse, c'est-à-dire des exercices spirituels, il y a quelque chose qui relève d'une thérapie, hein, d'une thérapeutique des passions. Il faut soigner, hein, les passions qui nous animent, et on pourrait peut-être songer à des passions contemporaines, notamment la passion consumériste, hein, qui, d'une certaine manière, peut avoir quelque chose dans le fond d'assez futile, mais qui est en même temps quelque chose d'assez profond, parce que peut-être que cette passion consumériste vient combler aussi des manques, hein, des carences, hein, de notre ordre, peut-être même aussi des troubles quasiment métaphysiques, hein, sur, hein, le sens, hein, fondamental que nous donnons à la vie, au monde, etc. Donc on est ici dans ce qu'on pourrait appeler, avec les exercices spirituels qui donnent lieu à cette ascèse, une psychagogie. La psychagogie, hein, c'est le mouvement de l'âme, hein, c'est-à-dire c'est l'opération de transformation par laquelle nous nous changeons de façon spirituelle et qui entraîne un mouvement de l'âme. Alors voici quelques exemples de listes d'exercices, hein, qui sont mentionnés par Pierre Hadot. La recherche, l'hypothèse, l'examen approfondi, skepsis, la lecture, l'audition, l'attention, hein, la provoquer, la maîtrise de soi, l'inclatéia, l'indifférence aux choses indifférentes. On peut rajouter la méditation, etc., mes détails. Voilà un ensemble d'exercices spirituels que l'on trouve dans ces pratiques d'ascèse, hein, dans l'Antiquité. Alors je pourrais les détailler, hein, mais je vais passer un petit peu là-dessus, parce que ça nous amènerait trop loin. On pourra y revenir éventuellement. Ce que je voudrais juste suggérer, hein, c'est que, aussi bien pour les stoïciens que pour les épicuriens, malgré toutes les différences, hein, qui les séparent, c'est que nous sommes ici avec cette notion d'ascèse en présence de quelque chose qui est une règle de vie. C'est-à-dire l'ensemble des exercices spirituels de transformation de soi prennent sens par rapport à ces notions de règle de vie. Et d'une certaine manière, il y a une tendance que l'on peut considérer comme un peu dogmatique, hein, au sens étymologique du terme, dogma, c'est-à-dire la doctrine, hein, dans l'Antiquité, en ce sens que la philosophie, en tant que quête de sagesse, recherche ou effort ou tension vers une sagesse, hein, consiste à respecter de façon stricte, hein, dogmatique en ce sens-là, une règle de vie. Et donc un certain nombre de moyens, hein, sont mobilisés, hein, pour pouvoir respecter cette règle de vie, et je trouve que c'est un détour, hein, qui est assez intéressant, parce que on peut se demander justement, hein, si on s'intéresse à la transition écologique, ce que peut bien signifier une règle de vie à notre époque, et ce que peut être la transformation d'une règle de vie. Hein, si je vous posais la question comme ça, c'est quoi votre règle de vie ? C'est pas évident de répondre à ça, hein. C'est une question qui nous amènerait à aller chercher assez profond en nous-mêmes et à faire un énorme travail de clarification, en fait, de ce que sont les principes, les modèles que nous suivons dans notre vie, sans qu'il soit forcément possible d'ailleurs de ramener l'ensemble des voies ou des chemins que nous suivons à une règle de vie fondamentale, par exemple la règle de vie stoïcienne ou la règle de vie épicurienne. La règle de vie stoïcienne, par exemple, dans les exercices, implique que vous représentiez l'ensemble des souffrances que vous allez pouvoir éprouver dans votre existence pour pouvoir vous y préparer, hein, pour pouvoir vous renforcer, en fait. Voyez, et donc c'est un exercice de remémoration, voyez, en quelque sorte, de l'ensemble des épreuves que vous êtes susceptibles de traverser dans l'existence, mais qui vous renforce et qui vous permet de vous y préparer. Et on voit que la règle de vie, et donc les exercices du côté épicurien cette fois-ci, impliquent au contraire que vous vous délestiez complètement de tous ces maux de l'existence pour vous concentrer sur les plaisirs, les joies, hein, que vous pouvez ressentir. Donc deux approches assez différentes, mais qui convergent néanmoins vers cette idée qu'il y a une règle de vie qui nous fournit une sorte de boussole dans l'existence. Et c'est quelque chose qui nous interroge, hein, parce qu'en tout cas, c'est une hypothèse que je ferais volontiers. C'est que cette transition écologique implique une transformation en profondeur de notre mode de vie, de ce qui est censé être notre règle de vie, mais sans que nous ayons une conscience forcément très claire de ce qu'elle est. Voilà. Donc il y a un côté très pratique de cette ascèse chez les philosophes de l'Antiquité. Alors, pourquoi je fais ce détour à part par la notion d'ascèse? Parce que, justement, il me semble que la question du sacrifice est clairement posée dans un processus de transformation qui est sans doute à la fois individuel et collectif. Et en même temps, nous voyons bien les limites d'une conception complètement sacrificielle du changement. Et donc la nécessité d'avoir quelque chose d'autre que simplement le sacrifice, quel que soit le sens que nous pouvons donner au sacrifice. Et on pourrait parler d'une conception exercicielle, entre guillemets, au sens où elle serait fondée précisément sur ces exercices. C'est ici l'idée selon laquelle le changement, ce n'est pas quelque chose simplement qui se décrète, par une sorte de décret souverain de ma raison, de ma pensée, etc. C'est quelque chose qui s'exerce, qui s'expérimente, qui peut impliquer donc, des épreuves, des échecs. On avance d'un pas, on recule de deux pas, etc. Alors, je passe un peu rapidement sur les différents modèles du changement humain. Je vais me concentrer sur quelques cas. Je voulais juste rappeler ici la différence qu'on pouvait faire entre des modalités du changement. Le modèle fondamental du changement, c'est quelque chose X devient quelque chose X' ou quelque chose Y. Alors, je fais la différence entre X' et Y, parce que X', c'est un changement partiel, Y, c'est un changement total. C'est la différence qu'il y a entre, par exemple, le bout de papier froissé et Y, changement total, le bout de papier à brûler. Changement d'état complet au niveau physique. Dans le changement humain, on a quelque chose de très voisin. Quelqu'un X devient quelqu'un X' ou quelqu'un Y. Je donne l'exemple, Donald Trump s'est marié à une autre femme. Vous me direz, c'est un petit peu la routine pour Donald Trump. Ou Donald Trump est devenu une femme. Alors là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond, même si ça peut vous paraître tout à fait improbable. Ou alors, tout aussi improbable, Donald Trump est devenu écologiste. Voyez. Alors là, effectivement, c'est peut-être aussi improbable que le fait que Donald Trump devienne une femme. Mais on voit bien qu'il y a une différence très importante dans le degré ou la nature du changement. Une différence de degré qui est poussée à un point tel que c'est carrément une différence de nature. Et en même temps, on voit bien que c'est tout le problème de l'identité. Qu'est-ce qui reste par rapport à ce qui change, ou qu'est-ce qui reste dans ce qui a changé. Même si Donald Trump, soyons fous, devient une femme. Donc il a changé de sexe, changé d'identité, mais est-ce que ça veut dire qu'il a tout changé en lui pour autant, c'est-à-dire, est-ce qu'il a changé ses conceptions, ses habitudes, ses jugements, ses goûts, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement un changement total, un changement radical? Alors quelques oppositions en termes de changement, changement rationnel, changement expérientiel, c'est-à-dire un individu change sur la base d'une raison R ou sur la base d'une expérience E. Ici, je mentionne ce point parce que on a été beaucoup polarisé par une conception assez rationnelle du changement, et cette idée selon laquelle si nous changeons, c'est parce que nous avons de bonnes raisons de changer. Par exemple, si on est dans le registre du discours, nous avons eu des discussions avec des gens qui nous ont avancé des arguments, ces arguments nous ont convaincus, ça nous a fait changer de position. Donc c'est la discussion, en quelque sorte rationnelle, argumentée, qui nous permet de changer de position. Or, je pense qu'il faut se sortir en fait de ce modèle très polarisé en fait du changement rationnel pour envisager toute la palette, en fait tout l'éventail des modalités du changement, si on veut peut-être être capable de toucher ce problème des spécificités individuelles voire collectives des facteurs du changement. Donc changement actif versus changement passif également. Le changement n'est pas qu'actif. Nous changeons également parce qu'il y a des éléments dans notre environnement qui font que, de façon inconsciente, nous allons être poussés vers une certaine voie. Donc il faut sortir là aussi du modèle du changement comme étant purement et simplement le produit de notre action, volontaire, consciente, etc. changement individuel, mais aussi changement collectif. Hein, c'est l'action d'un individu ou c'est l'action d'un ensemble d'individus qui sont en interaction. Changement graduel, changement radical. Effectivement, parfois, et j'en donnerai un exemple aussi, avec la sortie de l'addiction, on a tendance à penser que voilà, on était complètement dépendant de la cigarette et du tabac, et tout d'un coup, boum, ça y est, on fait un changement radical, on arrête de fumer. Ça se passe pas comme ça, forcément. Ça peut être un changement en fait beaucoup plus graduel, et on pourrait faire le lien aussi avec le problème de la complexité des facteurs du changement. En fait. Changement superficiel versus changement profond aussi. Donc un changement superficiel, c'est juste un aspect qui change, mais dans le fond, le principe d'une règle de vie ou d'un mode de vie ne change pas. Changement profond, ce changement d'aspect implique un changement de principe qui vaut pour donc, la règle de vie ou le mode de vie. Et enfin, changement simple versus changement complexe. Le changement simple, s'il est lié à un seul facteur, le changement complexe, il est lié à une multitude de facteurs qu'il faut activer. Je pense que ce changement complexe est un modèle intéressant aujourd'hui pour sortir là aussi de l'enfermement dans une approche qui est fondée sur un facteur. Très certainement que pour enclencher des changements, surtout si ce sont des changements profonds, il faut pouvoir jouer de façon complexe sur une multiplicité de facteurs et qui plus est des facteurs qui interagissent, rétroagissent de façon complexe. Alors je voudrais maintenant donner quelques cas de changement humain, et donc j'en ai retenu 4. Le changement de travail, le changement de conduite sur la route, le changement écologique et la sortie d'addiction, en prenant l'exemple de l'arrêt de la cigarette, l'arrêt de la tabagie. Ce que je veux montrer ici, c'est la pluralité d'aspects que l'on peut ranger sous la catégorie changement. Si je prends le cas du changement de travail, qui est quelque chose d'assez banal, voilà. Ça peut être par exemple je change de poste, où je change de service. Mais ça peut être, je change d'entreprise, je change de compétences, j'acquiers de nouvelles compétences, j'ai de nouveaux collègues, j'ai de nouvelles responsabilités. Ça peut être aussi, je change de lieu de travail, donc je change de lieu de résidence, j'ai une nouvelle vie, je vis dans un nouveau monde. Vous voyez, ça peut être toute une gamme en fait, de changements, quand je dis simplement je change de travail. Ça peut impliquer un changement radical, carrément de vie, de milieu, de fréquentation, etc. Le changement de conduite sur la route, quand vous avez atteint votre quota d'infraction et de contravention, il va falloir changer. D'ailleurs, il y a des gens qui vous font faire des stages et tout pour vous indiquer le droit chemin de la conversion à la conduite raisonnable, prudente, etc. Alors ça peut être, j'en ai assez de payer des contraventions, je suis obligé de toute façon de faire un stage de conduite, j'ai décidé de faire plus attention et de rouler moins vite, je bois moins d'alcool avant de prendre la route, je fais attention à ralentir dès que je vois un panneau, je roule moins vite qu'avant de toute façon, je suis réceptif au danger de la vitesse, donc déjà on a quelque chose qui est de l'ordre de la conscientisation aussi, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre de la contrainte, qui est exogène, qui vient de l'extérieur, parce que je suis obligé de le faire, etc. Non, ça vient de moi, il y a un mouvement de l'âme, comme diraient les philosophes antiques, une psychagogie. Je deviens de plus en plus conscient des raisons du bien fondé de ce changement, et je me l'approprie. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'est tué sur la route récemment, j'ai moi aussi des enfants qui vont à l'école, je suis aussi motivé par la réduction de la pollution, c'est-à-dire tout un tas d'autres considérations qui peuvent modifier le sens même de la notion de changement. Le changement écologique, ça peut emprunter également plusieurs voies. J'éteins les lumières dans les pièces. Mes enfants, eux, n'ont toujours pas compris, malgré tous mes discours. Donc je vois bien qu'il ne suffit pas de dire les choses. Il faut visiblement activer d'autres leviers pour que ça soit efficace. Même s'ils sont, comme tout le monde, parfaitement pénétrés de la nécessité d'avoir une conscience écologique. J'isole ma maison afin de dépenser moins d'énergie. Je vais en vélo à la gare. J'achète une voiture électrique, je ne vais plus en vacances en Thaïlande ou au Costa Rica pour une semaine, à cause de mon bilan carbone. Je quitte la ville pour m'installer à la campagne, je décide d'acheter des produits bio, je décide de ne plus manger de viande, alors là, vous entrez dans la voie végane. Je décide de produire une partie de mon alimentation. Donc là, on rentre dans l'action aussi, qui consiste à faire un changement écologique, disons, un peu particulier, qui est de devenir un producteur, et pas simplement un consommateur. Maintenant, je voudrais me concentrer sur le problème de la sortie de l'addiction à travers l'exemple de l'arrêt du tabac. Ceux qui sont anciens fumeurs savent de quoi je parle. C'est pas toujours très simple. En plus, nous sommes dans le mois, je crois, de l'arrêt du tabac actuellement. Et j'ai entendu le slogan, c'est bon, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on est là pour vous écouter. C'est vrai. Bon, c'est déjà pas mal parce que l'écoute est fondamentale de ce point de vue-là. Donc c'est intéressant l'addiction parce que elle illustre le problème de la complexité de la dépendance, qui est une sorte de caricature du besoin et qui peut virer à l'obsession. Et je trouve que c'est pas mal cette question de l'addiction parce que on peut légitimement s'interroger sur ce qu'est la nature de notre rapport à un certain mode de consommation qui, de toute cette manière, peut être tout à fait assimilé à une forme d'addiction. D'où aussi la difficulté qu'il y a à sortir de cette addiction, par exemple à la consommation, mais qui peut se décliner tous azimuts. On peut aussi avoir une addiction à l'information, aujourd'hui à la communication, selon les différents modes que vous connaissez tous, mais qui n'est jamais en fait qu'une des modalités de la consommation. On consomme de l'information, de la communication, mais on continue de consommer.